Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les Jeux Olympiques de Munich en 1972 ont marqué la grande et la petite histoire. La grande avec l'attentat contre les athlètes israéliens le 5 septembre. 11 sportifs ont été tués après une prise d'otage de plusieurs heures. Un événement tragique qui relativise forcément le reste. Et le reste, c'est la petite histoire, donc une finale olympique de basket légendaire entre les États-Unis et l'URSS. Elle a été disputée le 9 septembre en pleine guerre froide entre les deux pays. Une finale au final complètement dingue avec des retombées qui durent encore aujourd'hui pour les familles des joueurs américains. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de Basket. Allons directement à la fin de cette finale des Jeux Olympiques 1972, car ce match bascule dans l'irrationnel au cours des derniers instants. Duke Collins, qui deviendra ensuite coach des Bulls, se retrouve sur la ligne des lancers francs. Il réussit les deux et donne ainsi un point d'avance aux USA, 50 à 49. Il reste 3 secondes à jouer. Les Soviétiques jouent la remise en jeu, mais la partie est arrêtée au milieu du terrain avec une seconde au chronomètre. C'est le début de la confusion. Un temps mort aurait été demandé par les Soviétiques. L'arbitre décide de redonner 3 secondes à jouer avec une nouvelle remise en jeu. L'URSS effectue cette remise en jeu et la passe qui suit n'est même pas encore vraiment lancée que le buzzer retentit. C'est terminé, le score apparaît sur les écrans de télévision, les Américains exultent, ils sont champions olympiques. Sauf que l'arbitre avait redonné 3 secondes à jouer aux Soviétiques, on l'a dit. Et lors de la remise en jeu, malheureusement, le chronomètre était toujours réglé sur une seconde qui restait avant la confusion du temps mort. Il faut donc recommencer, pour la troisième fois, avec bien 3 secondes au compteur. L'engagement se transforme en passe très longue qui traverse tout le terrain, arrive en direction d'Alexander Belov. Malgré deux défenseurs américains face à lui, le joueur en maillot rouge capte la balle, feinte et marque. Pour la dernière fois de la partie, on entend le buzzer et cette fois c'est l'URSS qui est championne olympique. Score final 51 à 50, c'est historique sur la forme avec ses interminables 3 ultimes secondes, mais aussi sur le fond, c'est tout simplement la première défaite des Américains dans les Jeux Olympiques depuis l'instauration du basket en 1936.
Now the clock shows 3 seconds. There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov. Between two American defenders. And this time it is over.
Le lendemain, à l'hôtel, la colère n'est pas redescendue. Les joueurs de l'équipe américaine confirment ce qui se dit depuis quelques heures. Ils refuseront tous leur médaille d'argent. C'est leur façon d'exprimer leur sentiment, qui est celui d'avoir gagné ce match, et deux fois. Ils tiennent parole, au moment des cérémonies, ils sont absents, leur place sur le podium est vide. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, une équipe refuse une médaille en signe de protestation. Au fil du temps, les responsables olympiques tentent tout pour les faire changer d'avis. Ils multiplient les courriers et les coups de téléphone, mais rien n'y fait. Les arrières Kenny Davis et Tommy Anderson vont même encore plus loin. Il est inscrit dans leur testament que les membres de leur famille n'ont pas le droit d'accepter les médailles après leur décès. Pour s'assurer que la décision du 10 septembre 1972 soit bien irrévocable, l'ailier Tom McMillan a demandé à ce que les 12 médailles soient envoyées à un avocat à Chicago afin qu'aucun joueur ne vienne un jour réclamer la sienne au Comité international olympique. L'avocat en question, Donald Gallagher, devait alors ensuite les céder à des musées aux États-Unis, mais le CIO a refusé cette demande. On revient donc à la case départ. Que faire des médailles plus de 50 ans après ces Jeux Olympiques ? d'autant que certains joueurs sont soit décédés, soit toujours enfermés dans leurs décisions de 1972. Mais surtout, après 5 décennies, où sont ces 12 médailles? La question peut se poser car le CIO peut bien proposer aux joueurs américains de venir les chercher, il aurait été bien en peine de les fournir si les médaillés d'argent avaient changé d'avis. Une enquête des journalistes de The Athletic en 2022 a en effet montré qu'il manquait 5 médailles d'argent. Revenons à la journée de la remise des médailles. On l'a dit, les Américains n'étaient pas présents. Ce boycott a poussé les organisateurs à changer le programme. Initialement, la cérémonie devait avoir lieu dans le stade olympique. Sans la délégation américaine, c'est finalement l'Olympiahalle qui accueille l'événement à la fin du tournoi de handball masculin. Quand la cérémonie se termine, comme prévu, personne n'est venu réclamer les breloques en argent, ni les papiers officiels, une sorte de diplôme qui confirme les résultats du tournoi. Deux fonctionnaires repartent donc avec le butin. Walter Troger, le maire du village olympique en 1972 et membre du CIO, se souvient avoir pris les diplômes, mais pas les médailles. Il précise que c'est Ernest Knössel, ancien directeur sportif du comité d'organisation de Munich, qui est reparti avec. Au début des années 90, le comité olympique allemand propose de remettre 7 des 12 médailles au CIO en Suisse. Voilà pourquoi les Américains pouvaient aller les chercher au CIO. Mais les 5 autres ? Willy Dohm, président du comité olympique allemand, en possède une et les 4 autres sont chez Ernest Knössel. Ces deux personnages sont aujourd'hui décédés et leurs fils n'ont pas pu apporter d'éléments concrets sur la destinée de ces 5 morceaux d'histoire de l'olympisme. Pour conclure cette histoire romanesque, il faut quand même préciser le parcours de Willy Dohm. Il était chargé de convaincre le CIO, dont il était membre, de confier les Jeux Olympiques de 1972 à Munich, 36 ans après les tristement célèbres Jeux Olympiques organisés par l'Allemagne nazie en 1936 à Berlin. Une Allemagne alors dirigée par Adolf Hitler et par son parti politique, le NSDAP, dont Dohm était membre. Un ancien nazi pour convaincre le CIO de faire oublier les Jeux Olympiques organisés par des nazis. Avouez qu'il fallait oser.
Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Mémorial nazi peut-être.
D'après des recherches publiées en 2010, Willy Dohm était également un délateur durant la Seconde Guerre mondiale et dans l'usine familiale dont il avait hérité à la mort de son père, on recensait 65 travailleurs forcés. Les médailles ont donc été dans les mains d'un ancien nazi, ce qui ne change pas l'aigreur des Américains. Qu'elles soient dans un coffre-fort en Suisse ou dans le sous-sol de quelqu'un, ça n'a vraiment pas d'importance pour moi, je me fous de savoir où sont ces médailles, conclut le joueur Mike Bentham.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.